franceinter.fr.
Et on le sait depuis quelques années maintenant, nous avons tous en nous quelque chose de Néandertal. Et aujourd'hui, c'est le génome récent d'une femme de Néandertal qui nous permet de mieux comprendre, eh bien, justement, ce que nous avons en nous, de ses cousins, cette cousine même qui vivait il y a 55 000 ans dans la grotte de Vinja en Croatie. Et son génome complet qui vient d'être publié par les équipes de l'Institut Max Planck en Allemagne. Et on décortique son ADN avec notre invité Axel.
Il y a beaucoup à en dire, n'est-ce pas, Céline? Bon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes paléogénéticienne, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est pas la première fois, en conséquence, un génome de Néandertal. Pourquoi cette femme particulièrement est intéressante?
Alors jusqu'à présent, le seul génome néandertal de bonne qualité que nous avions était un génome qui provenait d'un néandertal, d'une néandertale aussi, qui était présente dans l'Altaï. C'est une chaîne de montagnes qui est à la frontière entre la Chine, la Russie, la Mongolie et le Kazakhstan. Donc c'était assez éloigné de l'aire de répartition classique des néandertaliens, qui est l'Europe, ou en tout cas l'ouest de l'Eurasie. Donc ce génome de néandertal de l'Altaï était très intéressant parce que c'était le premier génome de néandertal, mais pas très représentatif des néandertales tels qu'ils sont. Ici, dans la grotte de Vindija, en Croatie, on est vraiment au cœur de l'aire de répartition des Néandertals. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant puisque ça nous apporte des informations plus précises sur l'espèce.
Alors, ces Néandertaliens de la grotte de Vindija, cette femme, est-ce qu'ils ont croisé directement Homo sapiens? L'ADN permet de le dire?
Alors, l'ADN ne permet pas de nous dire si cette Néandertalienne de Vindija a croisé des sapiens hors d'Afrique.
Ouais.
Dommage. En revanche, ce qu'on sait, c'est vu la date, alors il y avait une date radiocarbone autour de 38-40 000 ans, là la date génétique est un peu plus ancienne, autour de 55 000 ans. En tout cas, à ce moment-là, il y avait des Homo sapiens qui étaient sortis d'Afrique, donc potentiellement, ils auraient pu se croiser en Europe, mais on n'en a pas la preuve.
Alors comme à chaque fois qu'on trouve des génomes, on s'amuse à comparer avec l'homme d'aujourd'hui, l'homme moderne. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau vraiment avec cette femme néandertalienne qui est récente? C'est ça qui est important.
Ouais, alors cette femme néandertalienne est récente et surtout elle est européenne, c'est vraiment le point qui nous intéresse. Donc, le séquençage de son génome nous permet de mieux préciser les relations entre les différents groupes et les différents groupes néandertaliens et avec les autres lignées humaines contemporaines, que ce soit sapiens ou que ce soit Denisova, une autre espèce humaine qui était présente en même temps en Asie. Donc déjà, on précise mieux les dates, la structuration de ces populations néandertaliennes, même s'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Et surtout, on précise également les modalités du métissage entre les néandertaliens et les sapiens. La lignée qui s'est métissée avec les sapiens est beaucoup plus proche de ces néandertaliens européens que du néandertal de l'Altaï. Donc cette découverte, ce séquençage du génome du néandertal de l'Altaï a permis d'affiner, même d'augmenter le pourcentage d'ADN néandertalien que l'on retrouve à l'intérieur des génomes des sapiens actuels non africains.
Et qui est estimé à combien alors à peu près
alors,
aujourd'hui?
On était sur le néandertal de l'Altaï à 1,5 à 2,1. Aujourd'hui, on est passé à 1,8 à 2,6.
2,6 quoi? Pourcent?
Pourcent du génome qui provient. Oui, pardon. Pourcent du génome qui proviennent de Néandertal. Donc un tout petit peu plus dans les populations asiatiques, un tout petit peu moins dans les populations européennes.
Ça veut dire que nous, Européens, aujourd'hui, on est plus directement liés avec cette néandertalienne et on a hérité plus de choses qu'un Asiatique aujourd'hui?
Non, c'est l'inverse.
Ah,
Asiatique a une plus grande part de son génome qui provient de Néandertal qu'un Européen.
Alors, qu'est-ce qu'on porte en nous, néandertaliens, aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à le savoir un petit peu mieux, justement, autour de ces gènes néandertaliens, là, chez nous, Homo sapiens? Vous avez réussi à en savoir un peu plus ou pas?
Alors, déjà, la plupart des allèles, des variants d'origine néandertalienne qu'on a à l'intérieur de nos génomes, sont situés dans des régions qui ne sont pas géniques, qui n'interviennent pas dans l'apparence, le phénotype, la biologie de nos organismes. C'est des régions intergéniques, qu'on appelle aussi junk DNA, qui ne sont pas soumises à sélection. En fait, dans les régions soumises à sélection, dans ces régions qui interviennent dans notre apparence, la plupart des allèles néandertaliens, des variants d'origine néandertalienne, ont disparu.
Cependant, on sait pourquoi il y a eu ce triage ou pas?
Une des hypothèses, c'est que Néandertal avait été un peu moins performant sur le plan de la reproduction, ce qu'on appelle la fitness. Et que donc, quand il a passé ces allèles-là aux sapiens, les sapiens qui les portaient
s'en sont débarrassés.
Avaient moins d'enfants, donc le transmettaient moins à leurs descendants. En revanche, il y a quelques variants qui sont arrivés jusqu'à aujourd'hui. C'est principalement des variants qui sont impliqués dans le métabolisme, donc le métabolisme des lipides en particulier, et dans l'immunité, la défense contre les pathogènes. Alors, ce n'est pas étonnant, déjà parce que la plupart des variants sous sélection, quoi qu'on regarde, interviennent assez fréquemment dans le métabolisme ou dans l'immunité. Il faut savoir que l'environnement, quand on parle de sélection avec un environnement, l'environnement, c'est d'abord les pathogènes qui nous entourent. Donc déjà, c'est pas étonnant de voir ce genre d'items qui ressortent. Et puis, il faut imaginer que quand Sapiens sortait d'Afrique, il était sans doute très mal adapté au climat et à l'environnement européen. Alors, environnement, le froid, le froid, l'hiver, et puis également les pathogènes qu'on pouvait trouver en dehors d'Afrique.
Le premier génome, déjà, quand il était sorti, on avait parlé d'héritage allergique, d'héritage diabétique de Néandertal. Est-ce que ça permet d'aller plus loin ? C'est bizarre qu'on ait hérité de maladies, en quelque sorte.
Exactement. Alors, c'est bizarre.
En fait, vous apportez la poisse néandertale ou pas ? Non.
Pas du tout. Ben en fait, on a hérité de variants qui, peut-être aujourd'hui, causent des maladies, mais qui étaient sans doute favorables dans l'environnement dans lequel on était au moment du paléolithique. Nos ancêtres ont vécu. Et comme vous allez le développer plus tard avec cette discussion sur la malbouffe, typiquement, notre alimentation a drastiquement changé depuis 1, 2, 3 générations. Donc, quand on était dans un environnement où on avait régulièrement des famines, des allèles qui allaient permettre de stocker des calories étaient plutôt favorables. Aujourd'hui, où on a trop d'alimentation, on est en surplus alimentaire, ces allèles vont créer des maladies.
Alors concrètement, donnez-nous des exemples précis, parce que l'étude dit que, par exemple, on a hérité de la culotte de cheval. C'est vrai ou pas ?
Bon, ensuite, typiquement sur les exemples précis, effectivement, cette étude sort des variants associés au cholestérol, associés à la vitamine D, associés à la graisse viscérale, des désordres de l'alimentation. Bon, ensuite, moi, je trouve ça assez difficile sur quelques variantes, cette façon-là, de sortir vraiment des phénotypes. Donc, c'est intéressant qu'il le suggère, mais on sait que la plupart des traits phénotypiques de notre apparence n'est pas soumise à un seul gène, à un seul variant, mais une interaction entre beaucoup de gènes les uns avec les autres et une interaction avec l'environnement.
Voilà. Donc dire que la culotte de cheval est néandertalienne, on oublie ça tout de suite.
C'est peut-être une toute petite prédisposition supplémentaire.
C'est pas pratique pour nos titrailles dans les médias quand même.
C'est plus facile. Ouais. On parle souvent de différences dans les caractères sociaux de Homo sapiens et de Néandertal. Est-ce que là, on a des indices un petit peu dans ce génome ?
Alors, ce génome est intéressant parce que, bon, outre ce génome de la femme de Vindhya, ils ont sorti également quelques données génétiques, mais de mauvaise qualité, sur un autre échantillon qui provient de la grotte de Mezmaskaya dans le Caucase. Et ce qu'on observe, c'est que même si la Croatie et le Caucase, c'est pas forcément très éloigné géographiquement, les populations dont dérivent ces deux individus se sont séparées il y aurait 80 à 100 000 ans. Et ce serait séparé également de la population avec laquelle nous, sapiens, nous sommes métissés. Donc cela suggère déjà qu'il y avait une forte structuration génétique entre les différentes populations néandertaliennes, qu'elles se croisaient pas souvent, qu'elles échangeaient pas souvent des femmes et des maris, mais qu'elles restaient dans leur coin pour se marier. Et cette observation est validée également, parce que dans le génome de Vindhya, comme on a un génome de très bonne qualité, on a pu séquencer le chromosome d'origine paternelle et le chromosome d'origine maternelle. Donc de comparer le nombre de différences qui existent entre le père et la mère, enfin la moitié du père et la moitié de la mère de cet individu. Et on observe qu'il y a une très faible diversité génétique entre ces deux individus, ce qui suggère là encore que peut-être contrairement aux sapiens actuels, on allait plutôt chez les Néandertaliens se reproduire au sein de la même population sans échanger des individus entre populations.
Eh bien, on en sait plus aujourd'hui grâce à ce génome de femme néandertalienne, 55 000 ans. Merci pour ces explications, Céline Bon. Vous êtes paléogénéticienne. Merci d'être venue aujourd'hui
dans
La Tête au Carré. Et Axel, on se retrouve lundi.
Bon week-end.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, toujours autour de nos origines, les derniers ancêtres communs entre les hommes et les grands singes étaient de petits singes, semblables aux gibbons, avec des bras de chimpanzés. Cette mise à jour de la lignée des primates était nécessaire pour les chercheurs américains qui la publient aujourd'hui, car cette idée que nos ancêtres étaient grands et déjà proches de nous dans leur apparence est globalement fausse. Les données physiologiques fossiles et actuelles, couplées à l'analyse ADN, permettent de descendre loin dans l'arbre de l'évolution et décrit cet ancêtre pesant de 5 kilos à peine et se déplaçant dans les arbres de branches en branche. L'augmentation de taille est, selon les chercheurs, venue bien après entre 23 et 5 millions d'années. La psilocybine, pour lutter contre la dépression, cette substance psychoactive contenue dans certains champignons est considérée comme une drogue, s'avère de plus en plus intéressante pour le traitement des addictions et des dépressions. Et une nouvelle étude menée sur 20 déprimés sévères au King's College de Londres mesure pour la première fois les modifications structurelles profondes qui interviennent dans le cerveau des patients traités avec seulement 2 prises de psilocybine. Des patients qui, pour 95% d'entre eux, montrent une amélioration significative de leur état et surtout décrivent une forme de restructuration de leurs émotions. Et puis enfin, l'histoire de la pollution au carbone dans le plumage des oiseaux empaillés. Voilà ce que viennent de faire avec une grande précision des chercheurs américains qui ont été capables de retracer l'histoire du charbon aux États-Unis simplement en analysant le plumage noirci des oiseaux capturés par les naturalistes depuis plus de 200 ans. Une même espèce passe du gris foncé au blanc immaculé selon qu'elle ait été capturée en 1800 ou en 1950 grâce à ses frêles plumes de passereau. Les chercheurs estiment que les émissions de CO2 aux États-Unis pendant les premières décennies du XXe siècle ont été largement sous-estimées.